Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI. Comme chaque jour en fin d'après-midi, et nous allons parler de football, de Ligue 1. La Ligue 1 qui valait 1 milliard. Hier, la Ligue de football professionnel a décroché le gros lot pour les droits de retransmission télé du championnat de France. Plus d'1 milliard d'euros donc. Et Canal+, le canal historique du football français dans l'Hexagone et hors jeu. beIN Sport et l'espagnol Mediapro prendront le relais en 2020. Quelles conséquences pour les clubs français? Tout le monde y gagnera-t-il? Les plus modestes, les centres de formation aussi y gagneront-ils, ou seulement les gros salaires des stars qui viendront jouer dans notre championnat? Nous en parlerons dans cette édition. À 10 jours de l'ouverture du mercato, les rumeurs courent toujours, enflent toujours, et la venue de Cristiano Ronaldo reprend du côté de l'Espagne. Mais aussi celle d'Higuaín, là c'est du côté de l'Italie, alors que celle de Buffon serait déjà acquise. Évidemment, nous parlons de venir au Paris Saint-Germain, qui d'ici 2020 a les moyens de faire venir ce genre de star. En tout cas, la Ligue 1 est décidément, ou serait décidément, très attractive. Le Pérou confirme sur sa lancée des barrages. L'équipe sud-américaine, 11e au classement FIFA, a gagné hier, elle aussi, son premier match amical. Une équipe qui sera dans le groupe de la France. C'est pour ça qu'on s'intéresse au Pérou. Et invité dans ce studio pour évoquer bien la Ligue 1, les droits, l'argent, tout ce qui tourne autour de tout cela, Étienne Moati, bonjour.
Bonjour à tous.
Notre confrère de l'équipe qui écrit beaucoup justement sur ce sujet aujourd'hui dans le quotidien sportif de France. À ses côtés, Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
À votre époque, c'était pas 1 milliard.
Ah non, on avait que l'homme qui valait 3 milliards à la télé, c'est tout. On avait ça à l'époque.
Freddy Koula, notre confrère du Gabon, bonjour.
Bonjour,
du Gabon,
bonjour
à Paris, bien sûr.
Justement, et africain, parce que salutations à tous les Africains qui aiment chèrement cette émission Radio Foot.
Et qui aiment la Ligue 1.
Qui aime beaucoup la Ligue 1, mais un peu plus la Liga et la première.
On va saluer un autre auditeur africain, un Malien de Paris, Monsieur Fané Moussa. Merci de nous écouter sous le ciel parisien. Radio Foot, c'est parti.
Ma foi, c'est l'équipe l'année dernière car toutes les recrues sont blessées. Milewski a toujours mal au tendon d'Achille. Turbo s'est fait une petite élongation à la cuisse. Et Pardo, lui, n'est toujours pas remis de son opération au genou. On va donc retrouver l'équipe que sur Canal+, vous avez découvert en Coupe de France à la fin de la saison dernière.
Et voilà, il n'y a plus d'images. C'était comme ça avant, parce que il y a eu un avant et il y aura un après Canal+, la chaîne cryptée. Quand le match commençait, eh bien, tout s'éteignait pour ceux qui n'étaient pas abonnés. Et ce match était PSG Saint-Etienne, commenté par Charles Bietri. Dans 2 ans, donc, le canal historique qui diffusa le championnat de France dans l'Hexagone, la fameuse donc chaîne cryptée, eh bien, celle qui avait acquis les droits de diffusion, la première, c'était il y a 34 ans. Elle ne le diffusera plus à partir de 2020. Le match du dimanche soir, surtout, qui rythme la vie des supporters et des amateurs de foot, eh bien, cela ne se passera plus sur Canal, alors que cela durait depuis 1984. Et Charles Bietri, qui était à l'époque directeur des sports et qui avait créé tout ce service, on va dire, autour du football français, était bien triste hier soir.
J'ai pas honte de dire que j'ai pleuré pendant 2 minutes. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement émouvant pour moi. C'est plus de 20 années qui sont revenues immédiatement à mes souvenirs. C'est Thierry Gilardi, c'est Grégoire Bargoton, c'est Jean-Paul Jaute, c'est Jérôme Revon, c'est Nono Bertoni. C'est tout ce qu'on a monté pendant des années pour arriver à un niveau qui était pour le moins bon. Et donc la première image que j'ai, c'est un château de cartes qui s'écroule. Et ça m'a fait très très mal. Et puis après, la raison a repris le dessus avec quand même 2 petits bémols. Un, c'est pour dans 2 ans. Les 2 prochaines saisons, ça ne bouge pas. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce que va faire Mediapro?
On va y venir à cette question de Mediapro. En tout cas, Charles Bietri s'exprimait hier soir dans l'équipe du soir, l'émission de la chaîne L'Équipe Télé. Messieurs, vous qui regardez le foot comme ça, tiens, Freddy, justement, vous qui avez dû suivre ça à travers Canal, le championnat de France, ça vous paraît triste? C'est la fin d'une époque Vous allez pleurer comme Charles Bétry.
Il faut bien expliquer aux gens en Afrique du Nord, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en disant est-ce que Canal va s'arrêter, est-ce que il y aura plus Canal. Non, Canal ne s'arrête pas, sauf qu'il n'y aura plus la Ligue 1 sur Canal. Et justement, il y a des souvenirs qui me sont revenus à moi et à beaucoup de mes amis. Je vous parlais parce que Canal en Afrique, il y a une histoire d'amour derrière. Après Canal France International à l'époque qui diffusait les matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1, il y a eu Canal Plus qui est arrivé, la chaîne cryptée, avec des souvenirs extraordinaires. On ne voit pas certainement ces images ici, mais en général, moi, j'ai un souvenir où pour regarder le match de Canal Plus, j'allais chez le boutiquier à côté parce que moi, j'avais pas l'abonnement, ou j'allais chez le voisin, je restais jusqu'à tard dans la nuit pour regarder le jour de foot. Et ça, ce sont des images symboliques du continent africain qui est amoureux de cette chaîne de télévision qui a réussi à s'implanter avec justement le manque, avec le manque de diffusion des matchs à l'international et les matchs de la Ligue 1 en France, en Afrique notamment. Et il y a eu ce canal qui s'est implanté avec la télévision satellitaire, cette fibre qui est devenue entre guillemets familière aux Africains. Et moi, j'en fais partie. Je suis un enfant de Canal, j'ai grandi dans Canal. Et quand la Ligue 1 disparaît de Canal, ça fait un hic et ça fait des souvenirs qui s'en vont.
Marc, vous qui alors n'étiez moins spectateur, mais peut-être même acteur de ces dimanches soirs ou de ces soirées, ça, qu'est-ce que ça vous fait de que finalement ça quitte Canal Plus?
Les époques changent. Voilà. Moi, j'ai connu les canaux des. Ouais, non, mais il faut savoir évoluer. Canal a mis quelque chose en place. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup, pas mal de médias qui veulent, voilà, Canal a lancé quelque chose. Canal a créé quelque chose.
A inventé quelque chose.
Les premiers matchs. Moi, j'étais sur Canal. Mes parents pouvaient ne voir que sur Canal parce qu'à l'époque, il y a que la Coupe qui était retransmise sur TF1 ou France 2 de l'époque. Mmh. Et il y avait rien d'autre. Quelquefois, un petit peu Eurosport. Et aujourd'hui, on arrive à une ère beaucoup plus importante où on est capable de nous voir de partout dans le monde entier. Donc ça a évolué, c'est bien, mais c'est vrai, ça évolue. Et puis moi aussi j'ai des jours de foot, des deux max, des émissions où on se retrouvait, on sortait les panneaux Canal de partout, Canal. Ouais. Ça fait bizarre, mais bon, il faut évoluer avec, malheureusement.
Étienne Moati, ça illustre finalement que les temps changent dans un monde ultra libéral qui est celui du football, c'est-à-dire c'est ni plus ni moins que la loi de l'offre et de la demande.
Oui, absolument. C'est sûr que quand Charles Bietri parle d'un château de cartes qui s'effondre, on est vraiment à ce niveau-là parce que
on l'a vu s'effondrer ces derniers temps.
Oui, quand vous imaginez qu'à l'époque où Charles Bietri était directeur des sports, il avait énormément de matchs de foot à retransmettre, il avait les droits à peu près de tout ce qui existait en football et il n'avait même pas la possibilité de les diffuser tellement l'antenne était embouteillée par tous les matchs de foot qu'il avait. Aujourd'hui, vous regardez Canal+, donc on n'a plus la Ligue 1. Canal+ n'a plus la Ligue des Champions. Canal+ n'a plus l'Europa League.
N'aura plus, hein, parce que c'est
ça. C'est déjà le cas. Il n'y a que la Ligue 1, que ce sera dans 2 ans. Canal+ n'a plus les championnats étrangers, ni la Première Ligue, ni la Liga, ni la Serie A, ni la Bundesliga. Canal+ aujourd'hui diffuse la Coupe de la Ligue, et encore en partie. Je veux dire, le chemin parcouru, la dégringolade pour Canal depuis l'époque de Charles Bietri, absolument phénoménal.
C'est un choix stratégique, selon vous, finalement. C'est quelque chose de subi ou c'est quelque chose de choisi?
Non, c'est quelque chose de complètement subi. Évidemment, il y a une inflation des droits, donc et il faut être capable financièrement de suivre les enchères qui sont faites donc par les différents opérateurs. Maintenant, sur ce dossier-là, Canal+ s'est senti en position un petit peu de force parce qu'ils avaient envisagé, et ils avaient raison, que SFR Sport ne vienne pas sur cet appel d'offres, sur cette consultation. Ça a été le cas, SFR n'est pas venu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu, c'est Mediapro qui avait déjà pointé le bout de son nez en Italie et qui est venu en France, et ça a été la grande surprise et la grande faillite pour Canal.
Alors, pour faire bien comprendre aussi à nos auditeurs africains qui vont certainement poser des questions, il faut leur expliquer le principe de territorialité des droits, expliquer que Canal+ a perdu les droits en France seulement et Canal+ réussit, c'est aujourd'hui la vache à lait, certainement le continent africain, c'est celui qui produit le plus de revenus pour Canal+, si je ne me trompe pas, parce que c'est une étude que je mène aussi dans le cadre de mes études doctorales. Il s'avère que Canal+ a toujours les droits de la Ligue 1 en Afrique, a toujours les droits de la Liga en Afrique, a toujours les droits de la Première Ligue. Donc tout ce qu'ils ont perdu, en gros, ici en France, ils ont toujours en Afrique. Et les abonnés de Canal+ en Afrique sont pour l'instant toujours gâtés. On ne sait pas si avec l'appel d'offres, la Ligue 1, ils auront toujours ces droits-là de la Ligue 1 en Afrique. On attend de savoir.
Alors qui est ce Mediapro finalement? Parce qu'on dit, Étienne, c'est un groupe espagnol. Mais enfin, comme dans l'époque dans laquelle on vit, c'est un groupe espagnol peut-être basé là-bas, mais avec des capitaux qui sont internationaux derrière.
Oui, absolument. Il y a un investisseur chinois donc qui est venu aujourd'hui donc racheter Mediapro. Mediapro, c'est une société espagnole dont la nature est de faire de la production audiovisuelle à la base. Et donc, ils sont éditeurs de chaînes. Ils éditent des chaînes en Espagne où ils retransmettent la Liga espagnole. Et puis, c'est aussi des gens qui font du commerce de droits. C'est-à-dire qu'ils revendent, ils achètent et ils revendent des droits de télévision. Et donc, c'est peut-être aussi l'espoir pour Canal+, parce que dans l'appel d'offres de la Ligue, il est prévu un droit de sous-licencié, c'est-à-dire celui qui achète des droits a la possibilité de les revendre. Donc la messe n'est pas complètement dite aujourd'hui pour Canal. Ils peuvent tenter, si jamais Mediapro le veut, de rentrer en négociation pour acheter donc dans un deuxième temps ce qu'ils ont perdu dans un premier temps.
Alors, la question qui peut se poser aussi, parce que vous parliez de l'homme qui valait 3 milliards, et donc maintenant on a la Ligue hein, qui vaut 1 milliard. L'homme qui valait 3 milliards, c'était en dollars, là on parle d'euros. La Ligue 1 vaut-elle vraiment ou vaudra-t-elle vraiment dans deux ans ce 1,153 milliard d'euros. On va écouter l'économiste du sport du centre d'études de Limoges, Christophe Lepetit, qui répondait à cette question à la mi-journée sur RFI.
C'est toujours difficile de déterminer le juste prix d'un championnat parce qu'il n'existe pas de marché des championnats de football dans le monde. Donc en fait, le juste prix d'un championnat, il est la rencontre de deux éléments. La qualité du produit qui est vendu, et en l'occurrence sur ce plan-là, on a un championnat de France qui est extrêmement qualitatif avec beaucoup de très beaux projets, avec Neymar, avec du spectacle, des affluences en hausse. Donc on a un très très beau produit. Et le deuxième élément, c'est la concurrence que se livrent les diffuseurs pour acheter ces droits-là. Et donc là, le résultat de l'appel d'offres est le témoignage d'une concurrence assez vive entre les différents protagonistes. Et donc finalement, on peut dire que la rencontre de ces deux facteurs aboutit au résultat de 1,2 milliard, qui quelque part est très certainement le juste prix, puisque c'est ce qu'ont consenti à mettre les diffuseurs pour obtenir ce droit.
Christophe Lepetit au micro de Florent Guignard. L'AL1 se classe donc désormais, pour ce qui est des droits de retransmission, sur le podium européen, derrière la Premier League et la Bundesliga, et juste avant la Liga et la Serie A. Est-ce que c'est logique finalement? Parce que nous, on sait, on en parle suffisamment dans Radio Foot, on place plutôt la Ligue 1 comme quatrième ou cinquième championnat de niveau sportif européen. Mais là, sur le niveau des droits,
comme l'a expliqué Christophe Petit, évidemment, c'est d'abord la concurrence entre les différents opérateurs qui fait le prix. Après, le prix, c'est relativement irrationnel. Si jamais vous avez un opérateur, et c'est le cas aujourd'hui de Mediapro, qui veut entrer sur un marché, vous n'avez qu'un moyen, c'est de payer un peu plus cher que les autres pour faire votre entrée. Maintenant, le montant qui est payé aujourd'hui, ça correspond à peu près à ce qui se fait dans les grands championnats européens. Et c'est vrai que la Ligue 1 a progressé quand même. Il l'a dit, Neymar est arrivé, le PSG quand même à une équipe extrêmement compétitive, et puis les audiences sont en hausse, les affluences dans les stades sont en hausse, tous les indicateurs sont plutôt au vert. Mais là où on voit que la Ligue 1 a encore beaucoup de retard de notoriété sur les autres grands championnats, c'est que pour la vente des droits à l'international, c'est-à-dire dans les autres pays que la France, là on est extrêmement en retard, et c'est vrai qu'à l'international, la Ligue 1 intéresse beaucoup moins que les autres grands championnats.
Mais vous aviez du mal à y croire, vous, avant cet appel d'offres, que ça atteindrait cette somme d'un milliard qui était le but que s'était fixé la LFP?
Oui, absolument, parce que l'arrivée de Mediapro, pour être honnête, moi je l'avais pas anticipé, mais j'ai vu personne l'anticiper, et manifestement pas les dirigeants de Canal+, parce que...
Ils étaient en cheville déjà, en fait, ils sont déjà en cheville avec beIN Sport, ils travaillent justement sur une retransmission d'images du côté de l'Espagne.
Oui, je sais pas si en cheville est la bonne expression, parce qu'ils pourraient prendre ça mal, mais c'est vrai que, en tout cas, l'idée est exactement celle-là.
Ils sont alliés.
Mediapro, donc, travaille pour le compte de beIN Sport depuis des années, donc que ce soit dans la production donc des chaînes de télé que peut diffuser, peut proposer beIN Sport, que ce soit aussi dans le commerce des droits sportifs. Donc c'est vrai que l'arrivée de Mediapro pose un certain nombre de questions. On s'interroge, est-ce que véritablement ils vont faire cette chaîne dans deux ans qui va retransmettre donc quasiment toute la Ligue 1, ou est-ce qu'il va y avoir des accords passés avec d'autres, peut-être avec beIN Sport, peut-être aussi avec Canal, si Canal réussit à se rattraper un petit peu aux cornes. Voilà, on va voir, en tout cas les mois qui viennent vont être intéressants.
Il y a juste une question que je me pose, c'est sûrement Étienne pourra répondre. C'est rentable aujourd'hui, Étienne, ce qu'ils ont fait? Parce que c'est vrai que recréer une chaîne comme ça du jour au lendemain, il faut des acteurs, il faut des consultants, il faut des journalistes.
En France, il y a Canal, il y a
Moyen,
il y a SFR,
y a
et
déjà,
maintenant il y aurait encore.
Il y a SFR qui arrive là, la rentrée prochaine pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Qu'est-ce qui va se passer? C'est rentable, Étienne, d'avoir fait ça?
C'est pas moi qui suis dans les comptes de MediaPro.
Non,
maintenant,
mais tu vois.
On peut évidemment toujours un petit peu s'étonner parce qu'on a vu à chaque fois de nouveaux acteurs arriver. Il y a eu une époque un peu lointaine où ça, c'était TPS qui est arrivé.
Orange,
ça n'a pas fonctionné.
Orange
est arrivé derrière. Ça n'a pas fonctionné non plus. Beansport est arrivé à des chaînes qui fonctionnent très bien et ils ont un très beau produit à proposer. C'est plutôt une réussite en termes d'abonnés, mais ils perdent énormément d'argent. Donc on se dit pourquoi d'autres encore essaient et tentent leur chance. SFR est arrivé, a mis beaucoup d'argent sur la Ligue des Champions, sur la Première Ligue anglaise. Aujourd'hui, il commence déjà un petit peu à freiner. On se dit pourquoi ? Il y a des investissements. Donc peut-être chacun a envie peut-être de tenter sa chance. Et puis peut-être surtout, il faut prendre des positions et voir le résultat à la fin.
Marc, en tout cas, peut-être que la venue quand même de stars international et il y avait eu Ibrahimovic, ouais. On peut penser peut-être même à Cavani et puis surtout Neymar, elle vaut peut-être pas encore un milliard mais peut-être qu'en 2020 elle les vaudra.
Je suis pas certain. Après, ça a été validé. Maintenant, est-ce que on nous dit à Neymar, Mbappé, mais peut-être qu'en 2020 ils seront plus là. Et qu'on aura peut-être un autre championnat. On aura sûrement encore le Qatar et le PSG qui seront là. Mais qu'est-ce qui va se passer autour? C'est bien beau dire oui, il y a plus d'argent, il y a plus d'acteurs, mais est-ce qu'aujourd'hui un grand joueur d'un championnat très important va venir à Marseille, à Lyon ou peut-être à Paris? Mais dans les autres clubs, c'est plus compliqué. Quand on parle de stars, je parle des Lewandowski, je parle des joueurs très importants, un Suarez par exemple à Barcelone. Est-ce qu'il va se dire, ah ben tiens, il y a 1,153 milliard, je vais aller à Lyon? Ça me paraît difficile, tu vois.
Un petit peu quand même.
Si
parce
on lui
que
offre un bon salaire.
Voilà, l'argent des droits télé, il va où? Il va au club. C'est ce qu'il faut dire.
Ouais,
donc,
oui,
les clubs, s'ils ont 60% de moyens supplémentaires, on peut imaginer, on peut espérer pour le spectacle de la Ligue 1 qu'il y aura de nouveaux joueurs, peut-être un peu plus renommés qui viendront.
Justement, le gros coup de la LFP qui gère les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, c'est d'avoir bien défendu les droits du football français. Et on va l'entendre, Jean-Michel Aulas, parce que au micro de notre confrère du service économique Bruno Faure, eh bien, il était plus que radieux, évidemment, hier, après ces très bons résultats des enchères.
C'est pour les clubs qui sont dans les compétitions européennes vraiment un très très grand succès car on réduit la différence avec les clubs européens et pour obtenir le droit de gagner sur le plan européen un certain nombre de droits supplémentaires, il fallait d'abord combler sur le plan domestique cet écart avec ces autres championnats. Donc là on va avec 4, 5, 6 clubs qui sont les plus compétitifs sur le plan sportif pouvoir se renforcer, se doter d'infrastructures pour ceux qui l'ont pas fait. Nous, on avait choisi avec Lyon de commencer par les infrastructures avant de commencer par les actifs incorporels, les joueurs. Et donc, on va pouvoir aussi peut-être prendre un peu plus de risques sur la partie joueurs et aussi sur la partie, bien sûr, centre de formation où on va se perfectionner pour avoir demain les meilleurs joueurs français dans nos clubs.
Voilà, prendre des risques sur les joueurs et sur les centres de formation, c'est ce qu'on imaginait. Freddy ?
Oui, justement, ça va peut-être améliorer, parce qu'il pose problème avec la Ligue 1, c'est la qualité, ça va peut-être améliorer la qualité du championnat parce que ça passe
la visibilité peut-être
aussi parce que ça passe par le niveau des joueurs et la starisation du championnat notamment. Et puis l'autre problème c'est que est-ce que ça va résoudre le problème de l'attrait à l'impôt notamment parce qu'il y a beaucoup de joueurs on sait qui ne viennent pas dans le championnat de France parce que justement il y a un taux d'imposition qui est extrêmement élevé. Certainement la Ligue doit devoir s'attaquer à tous ces problèmes là parce que justement après il y aura toujours la DNCG même si on leur donne 100 millions de plus, il y aura toujours des problèmes de trésorerie, les masses salariales qui sont extrêmement élevées pour les clubs. Ça ce sont des problèmes beaucoup plus grands aussi.
Justement Étienne, cet argent, est-ce qu'il va ruisseler, comme on pourrait dire, parce que la LFP gère la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais est-ce que ça va profiter aussi au-delà de ces clubs professionnels? D'abord, est-ce que on peut imaginer qu'il y aura, on sait qu'il y a des exigences de formation. Est-ce qu'elles y seront toujours? Est-ce que ça peut aller aussi bénéficier jusqu'aux petits clubs? Je pense à la nationale. Je pense aussi à ces clubs plus modestes où il y a des éducateurs en région.
Bah, le terme de ruisseler est plutôt le bon parce que c'est vrai que les droits de la Ligue 1, finalement, ça profite à tout le monde. Ça profite d'abord, évidemment, à la Ligue 1 et au club de Ligue 1, donc ils auront plus de ressources. Ça profite aussi à la Ligue 2, parce que la Ligue 2 perçoit 19% des sommes que touche la Ligue 1. Donc, c'est-à-dire que les clubs de Ligue 2, ils sont contents aussi. Et puis, vous avez des taxes. On adore ça, les taxes en France. Et il y en a une aussi sur les droits sportifs. Ça s'appelle la taxe Buffet. C'est 5% donc, qui vont donc, à l'ensemble du sport amateur et donc qui vont être prélevés donc, sur ces nouvelles ressources que va toucher le championnat de France. Donc, on peut dire que à tous les échelons, le sport et le foot français va profiter donc de cette nouvelle manne.
On peut y croire, selon vous, Marc ?
Je suis assez sceptique, moi. Donc je vais parler surtout par rapport à l'engouement. Est-ce que les joueurs vont venir parce que Lyon possède 250 millions d'euros? Ils vont quand même jouer contre des équipes qui n'ont pas forcément d'intérêt. Si le PSG continue comme ça, on critique souvent le championnat écossais ou certains championnats. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus qu'un club, quoi, qu'on le veuille ou non. Alors l'année dernière il y a eu Monaco qui a un petit peu perturbé la zone parce qu'ils ont fait une saison extraordinaire. Mais cette année en décembre c'était plié. Donc est-ce qu'aujourd'hui un grand ou un futur très grand se dit finalement je mise sur Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille? J'ai du mal à y croire. Je me dis, l'attractivité des clubs anglais, même Arsenal aujourd'hui, est beaucoup plus porteur qu'un cinquième ou sixième en France.
Tous les joueurs peuvent pas les jouer en première ligue. Il faut bien quand même que certains joueurs jouent dans d'autres championnats.
Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui peuvent y aller.
En France, on adore voir tout en noir. Et c'est vrai que tout n'a pas été rose dans le championnat de France depuis longtemps. Maintenant, ce sont quand même des ressources supplémentaires extrêmement importantes qui vont arriver dans les caisses des clubs. Et ceci pour 4 ans. Quand même, c'est pas rien. 60% de recettes supplémentaires sur les droits télé, qui est le poste le plus important dans le budget des clubs, forcément ça va avoir des retombées bénéfiques en termes de joueurs, parce que évidemment vous n'allez pas avoir d'un coup de baguette magique tous les meilleurs joueurs du monde qui vont arriver en Ligue 1. Maintenant, quand vous êtes un club moyen plus et que vous faisiez donc piller, si vous avez l'occasion et la possibilité d'offrir 50% de salaire en plus à un joueur, ça peut quand même en faire réfléchir certains. Et puis d'un point de vue global, je veux dire qu'il y a un effet mécanique aussi, qu'aujourd'hui on voit bien qu'à partir du moment où il y a le Paris Saint-Germain, et là je suis pas complètement d'accord avec Marco, c'est que vous avez des joueurs aussi qui vont jouer dans le même championnat que Neymar, dans le même championnat que Cavani. Il y a aussi de nouveaux investisseurs en Ligue 1, même tout, si tout n'est pas parfait non plus. Il y a des investisseurs américains qui arrivent.
Ça évolue, effectivement.
Donc voilà, il y a un cercle un tout petit peu plus vertueux qui est en train de se mettre en place.
Freddy, vous voyez aussi un cercle vertueux, vous qui avez vu pendant longtemps ce championnat de loin. C'est vrai que l'arrivée, on se souvient d'Ibrahimovic, mais il n'était pas tout seul. Il y a eu Thiago Silva, il y a eu Thiago Motta, il y a eu aussi, alors ça suivait tout ça, le club du Qatar pour l'instant, mais ensuite à Lyon, on a vu aussi des joueurs internationaux, même Balotelli à Nice, on a vu Depay du côté de Lyon. Est-ce qu'il y a, selon vous, une modification, une évolution qui correspond aussi à cette évolution des droits de retraite transmission?
Mais l'environnement macroéconomique, s'il évolue, naturellement l'environnement sportif aussi va évoluer. Ça a été le cas en Première Ligue et en Espagne notamment. Ce qui se passe, c'est que les droits ont augmenté en France. Ça veut dire que ça, c'est d'ici 2020. En Espagne aussi, je pense que d'ici 2020, ils vont faire un appel
et
ça va davantage augmenter. En Angleterre, peut-être qu'ils feront d'ici 4 ans après le record.
C'est pas si sûr que ça, parce qu'aujourd'hui, ce qui est la prouesse un petit peu de cet appel d'offres, c'est qu'il arrive dans un moment où les autres championnats commençaient à stagner. L'Angleterre, alors ils sont très largement au-dessus de nous, mais pour la première fois, leurs droits ont commencé à baisser un tout petit peu sur le dernier appel d'offres. L'Italie est toujours en grande difficulté. Ils ont lancé leur appel d'offres. Ils sont à quelques semaines de la reprise du championnat. Ils savent pas encore qui va diffuser. Et en tout cas, pour des montants qui seront inférieurs à ce que va toucher le championnat de France. Donc, les choses sont en train un petit peu de se rétablir.
À peu près se rétablir, oui, mais il y a la culture du championnat également. Moi qui ai vu les choses de l'extérieur. Rassurez-vous, la Ligue 1 n'a pas forcément la bonne presse, n'a pas forcément même si c'est Paris qui joue, on n'a pas forcément l'idée quand on a un match de Première Ligue, on a un match de Liga en tête, on se dit on regarde d'abord le match de Liga, on regarde d'abord Real Barça.
La Première Ligue.
Qu'importe ce qui se passe, même si c'est Cavani qui joue, même si c'est Neymar est arrivé au PSG, s'il y a un match Barça contre une équipe léganaise, tout le monde va d'abord regarder Barça. Sur le continent notamment, qu'il y a des grandes audiences là-bas, il y a des gens qui sont vraiment passionnés, tout le monde va regarder Barça léganaise plutôt que Paris Saint-Germain contre Lyon. Etc. C'est comme ça, mais culturellement aussi, il faut une évolution et schématiquement, peut-être que
LFP va y travailler sans doute.
Où je rejoins Freddy, c'est que c'est vrai qu'il y a. C'est pas que je crois pas trop et que je vois tout en noir, Etienne. C'est juste que aujourd'hui, un jeune comme Mbappé, il rêve d'une chose, c'est de Barça, du Real. Il rêve pas de rester en France, même si.
C'est pas le bon exemple, c'est quand même le joueur que l'Europe entière voulait qui est resté dans le championnat de France. C'est pas cet exemple-là,
mais en tout cas. 18 ans, tu sais très bien que sur un an ou deux ans, il ne sera plus là. Donc aujourd'hui, j'ai croisé encore des gens il y a quelques jours qui me disaient mon joueur, et c'est une valeur sûre, il rêve de l'étranger. Ouais. Et Freddy a mis le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est le porte-monnaie, c'est les impôts. Tu vas jouer en Angleterre, tu sais que tu gagnes deux fois plus, tu joues un an en Angleterre, c'est 4 ans en France.
Je pense que les joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, finalement, on peut regarder depuis que les Qatariens sont arrivés, finalement, ils restent au Paris Saint-Germain parce que là, pour le coup, les salaires, donc ça va pas être tellement le problème pour Mbappé.
Il y a un parallèle.
C'est le club qui paye leurs impôts.
Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe derrière. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur les clubs suivants, que ce soit Marseille, Lyon, etc. Mais avec des ressources supplémentaires, vous voyez qu'aujourd'hui quand même des joueurs comme Luis Gustavo, donc arrive en Ligue 1, je veux dire, ce n'est pas rien, ce sont des joueurs d'envergure. Donc si on veut voir tout en noir, on peut dire qu'il n'y aura jamais aucune amélioration. Là, on reste quand même sur des recettes qui vont être en très nette augmentation pendant une longue période. On peut espérer un peu quand même.
Excusez-moi, il y aura une amélioration, certainement, mais l'argent ne fait pas tout. Regardez le cas de la Chine, naturellement. On peut mettre autant d'argent qu'on veut, mais culturellement, si ces joueurs n'ont pas... Imaginez-vous, quand vous êtes jeune footballeur, moi j'ai un peu joué au football, dans ta tête... Tu as envie d'aller dans des grands clubs. Et les grands clubs, ce ne sont pas forcément des clubs comme Paris Saint-Germain, etc., qu'on voit en premier. Bien sûr, le PSG est en train de grandir. Bien sûr, Marseille est un club mythique. Mais on a tous envie d'aller soit au Barça, au Real, Manchester, etc.
Marc, peut-être que ça contribuera, c'est à garder des joueurs qui ont été formés dans les clubs et qui, dès qu'ils ont fait une demi-bonne saison, et là, on peut penser à Mbappé, tout de suite s'envole. Oui. Alors, lui, c'est un cas, on le sait,
Mbappé
un peu à part.
Mais... Non, mais je prends l'exemple du petit Lopez de Marseille qui a fait 6 mois la saison passée, qui a fait une bonne saison. Aujourd'hui, les offres qu'il peut recevoir, même si son club va lui mettre 400 ou 500 000 euros, c'est intéressant, mais il reçoit des choses c'est mirobolant. Et qu'est-ce que vous allez dire si on vous recevez une offre de 50 millions pour lui? Vous êtes Marseille. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez avoir l'argent du monde, hein, vous le vendez. Hein. Non, mais c'est ça, c'est que nous, on dit, là, il y a Fekir qui risque de partir pour 60 millions.
Les clubs auront peut-être du répondant maintenant.
Mais il y a du répondant, mais est-ce que le joueur a envie de rester et se dire, ben, championnat, quoi qu'il arrive, si je suis pas à Paris, j'ai de fortes chances de finir 3e ou 4e, jouer avec des champions, j'ai peut-être un club qui va m'ouvrir des opportunités à l'étranger, c'est ça. Et malheureusement, quand on est souvent en France, on n'est jamais bien quand on est joueur de foot et on pense qu'ailleurs c'est mieux. Et il y en a beaucoup qui sont revenus aussi, mais ils ont pris beaucoup d'argent.
Est-ce que ça peut faire d'une autre côté aussi, peut-être d'un autre côté, exploser le marché des transferts français? Est-ce que l'argent ira beaucoup dans les postes de salaire, ou est-ce qu'on peut espérer que les dirigeants seront un peu sages?
Ça veut dire quoi être ça, c'est-à-dire ne pas acheter des joueurs?
Non, ça veut dire investir aussi dans la formation.
C'est-à-dire Newcastle, il y a 5-6 ans avec des clubs français.
Il y a des clubs qui l'ont déjà fait, que ce soit dans leur stade comme Lyon, ou que ce soit dans des centres de formation comme Lyon aussi, et d'autres d'ailleurs. Maintenant, évidemment, c'est bien que l'argent serve aux infrastructures, c'est bien que l'argent serve à pérenniser un petit peu ce qu'est un club. Mais c'est quand même un spectacle, le football, et la Ligue 1, ça doit aussi être un spectacle. Donc évidemment, ce qu'on a envie aussi, il ne faut pas non plus voiler la face, c'est de voir des grands joueurs en Ligue 1. Donc ça passe forcément par des augmentations de salaire pour faire venir des joueurs, parce que comme le disait Marc, les joueurs, ils regardent aussi ce qu'on leur propose financièrement. Si des clubs ont plus de moyens, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas attirer les 10-15 meilleurs joueurs du monde, et à part ceux qui peuvent aller au Paris Saint-Germain. Après, derrière, forcément, vous pouvez commencer à faire des matchs avec certaines équipes moyennes de Première Ligue, avec certaines équipes moyenne de Ligue 1.
En tout cas, je parlais tout à l'heure du match du dimanche soir, comme on disait, le dernier qui referme la journée et qui met en général en scène au moins un des grands clubs du championnat, ou un de ceux qui est en haut de tableau. Maintenant, est mis en valeur aussi le match du dimanche 13h, c'est ça? Ça vous a pas échappé, évidemment, Étienne. C'est le match destiné à l'Asie et qui sera aussi une belle affiche.
Oui, celui-là, ce sera pas forcément toujours une belle affiche. Je crois que la Ligue va essayer d'organiser quelques matchs où ce seront de grandes affiches, mais donc il va y avoir sûrement et sans doute des joueurs, des clubs qui jouent la Ligue Europa, qui seront un peu programmés donc sur cette case-là du dimanche, pour ensuite jouer le jeudi soir. C'est un pari qui est fait par la Ligue. Ça a été fait par la Liga espagnole et ça a assez bien fonctionné, parce qu'ils vendent aujourd'hui, ils ont augmenté de manière assez importante leur droit à l'international. Si vous voulez évidemment séduire le marché asiatique, il vaut mieux que les matchs ne se passent pas en plein milieu de la nuit.
Mmh. PSG-OM, ça sera à quelle heure alors, finalement, Marc?
C'est très bizarre. Non, mais c'est dommage, c'est qu'en France, on aime bien voir...
Il y a eu des Real Barça à 13h en Espagne.
Oui, on s'en souvient, bien sûr.
Dans certains championnats, on les fait jouer à 13h, mais ça, c'est pour les sécurités, vous savez, parce que pour éviter que les pubs soient ouverts.
Oui,
donc ça
c'est au nord de la France. Eh bien, cette Ligue 1 est-elle devenue attractive ou suscite-t-il des convoitises? Eh bien, on va y venir.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Ce championnat qui vaudra 1 milliard d'euros bientôt, peut-il attirer des nouvelles stars dans l'attente, c'est-à-dire dès cet été? Le mercato n'est pas ouvert, il ouvrira le 9 juin prochain, mais évidemment, les rumeurs enflent et elles dureront sûrement jusqu'à la fin du mercato. En tout cas, la Ligue 1 pourrait-elle attirer Cristiano Ronaldo cet été? Est-ce que ça va être le feuilleton de l'été? Le quotidien de sport madrilène, alors pas Marca, cette fois c'est AS, fait aujourd'hui sa une sur Cristiano Ronaldo et la tentation PSG qui survient alors après plusieurs indices qui pourraient laisser penser que Cristiano Ronaldo a des envies d'ailleurs. Écoutez, c'était, vous vous en souvenez sûrement, juste en sortant du terrain de juste après la finale gagnée de la Ligue des Champions.
Pour l'instant, on va profiter du moment et dans les prochains jours, je donnerai une réponse aux supporters qui, eux, ont toujours été de mon côté. C'était bon de jouer au Real Madrid. Je parlerai dans les prochains jours.
Après, il y avait eu quelques petites hésitations aussi de Zidane qui disait il sera là l'année prochaine. Après, il a dit bon, enfin, Cristiano, on ne sait pas, c'est pas, on verra. Cristiano, le lendemain, dit à ses supporters à l'année prochaine. Il sème des petits cailloux et même sa maman a été interrogée par un ancien collaborateur de Radio Foot qui est sur la chaîne SFR Sport, c'est Nicolas Villas. Il est allé interroger la maman de Cristiano Ronaldo.
J'aime Paris. Je viens de temps en temps. La dernière fois, c'était pour voir mon fils recevoir le Ballon d'Or. Ce fut une grande fierté. Quand je viens, je suis bien reçu par tout le monde. Pour vous dire la vérité, ça ne me dérangerait pas qu'il vienne à Paris. Mais moi, je préférerais qu'il retourne à Manchester.
Marc, vous demandiez son avis à votre maman pour venir, pour aller dans un club quand vous changez.
Toute la communication, elle est énorme. Hein. Ouais. Même la maman, elle explique, mais attendez, Paris, c'est... J'adore,
mais on sait mais qu'elle bon. A une grande importance dans sa vie,
c'est
sa
normal,
maman.
C'est normal, mais après, c'est, là, c'est un clan. C'est, ouais, c'est très étrange tout
non,
ça.
Mais alors, l'autre question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'il a y gagné, Cristiano, de rester encore une année au Real Madrid?
Il joue dans un club référence qui est capable
oui,
de...
Oui, ça, qui fait rêver tout le monde.
Dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
Mais viens d'engager. Il en a gagné 3, il en a gagné 4 en 5 ans.
On en a jamais assez, ah Dani.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un feuilleton récurrent, donc la tristesse, parce que c'est ça qu'il avait dit la dernière fois, je suis triste
oui,
un peu à Madrid.
Bon, il le dit à chaque fois d'une manière différente.
Ça voulait dire j'ai envie de renégocier mon contrat, donc c'est comme ça que les choses se sont passées un petit peu à chaque fois. Maintenant, il faut peut-être finir par écouter quand même un tout petit peu plus, parce que comme vous venez de le dire, c'est vrai que Ronaldo, il est toujours au top, mais il est quand même aussi...
Il a 33 ans.
Voilà. Quand même plus proche de la fin que du début.
Donc, il a dit qu'il jouerait jusqu'à 40 ans.
Peut finir par surgir dans sa tête l'idée de signer un contrat hors norme, donc avec un nouveau riche du football européen, en l'occurrence le Paris Saint-Germain.
Comme l'a fait Neymar.
Et franchement, on a été surpris de l'arrivée de Neymar à Paris. Je suis pas en train de dire que Ronaldo va arriver à Paris maintenant.
Tout
chaque fin de saison, c'est vrai que l'hypothèse devient éventuellement possible, alors qu'elle était complètement impossible avant.
Je pense qu'il est tellement compétiteur dans l'âme que je le vois pas débarquer sur un plan footballistique, parce que pour lui, il a pas 33 ans, pour lui, il a 20 ans, donc il se sent de jouer, il le dit jusqu'à 40 ans, il s'arrêtera jamais. Là, sur la finale, il passe à travers, il a boudé, il était pas content, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette déclaration. Mais je le vois pas, ouais, peut-être Manchester, mais...
sa compétition, c'est la Ligue des Champions, le PSG joue la Ligue des Champions. Non, ce que je voulais dire, c'est que depuis que Ronaldo est au Real, je pense que c'est la période la plus longue où il a envoyé des messages pour prolonger son contrat. Pour la première fois, je pense, ça fait déjà à peu près bientôt un an qu'il envoie des messages
en disant prolonger, c'est réévaluer.
Ouais, justement, prolongation,
pas, c'est que
ouais, prolongation
Messi
et augmentation,
Neymar
justement, pour revenir au niveau de Messi et de Neymar depuis que Neymar est arrivé notamment. Et je pense peut-être qu'il y a une lassitude morale. Indirectement, je pense que là, on a dépassé en fait la limite de j'envoie des petits messages pour pouvoir renouveler. Certainement, il a
Jorge
aussi.
Jorge Mendes, son fondé de pouvoir est
non, mais dans sa tête, il a peut-être aussi envie de changer. Ça fait peut-être mal aux fans du Real qui il a gâché la fête l'autre fois, mais la décision lui appartient à lui. Et certainement, il a envie d'autre chose. Et il a tout à gagner, je pense, contrairement à ce que dit Marco. Je pense qu'il a tout à gagner en venant, par exemple, à Paris, où il serait certainement beaucoup plus que Neymar, un dieu. Souvenez-vous ce qui s'est passé récemment. Souvenez-vous quand il a reçu le ballon d'or la dernière fois. Moi, j'ai regardé toute la cérémonie. Il avait l'air d'être fasciné par la ville de Paris. Il avait l'air d'être fasciné par la Tour Eiffel. Ce sont les symboles. C'est rien.
Mais moi aussi.
Il dit qu'il vient à Paris, les restos, etc.
Et tiens aussi. Ah ouais.
Moi aussi, j'aime Paris.
Voilà, Tour Eiffel, dès que je la vois, j'ai envie de gagner le ballon d'or.
Il y a un côté bling bling. Personne ne pensait que Beckham viendrait à Paris terminer sa carrière. Personne n'imaginait cela. Personne n'imaginait Neymar. Mais je pense que lui a tout à gagner en venant à Paris. Il continuera à jouer.
Beckham, c'était un joueur qui était même au-delà de la fin de carrière quand il est venu à Paris.
Il continuerait à jouer au moins la Ligue des Champions.
La limite quand même à toute cette histoire, c'est qu'on a l'air d'oublier un petit peu que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui donc en dehors des clous du fair-play financier.
On aura la réponse le 8 juin.
Donc il paraîtrait extrêmement étonnant qu'ils soient en mesure, donc au-delà donc de l'effectif qu'ils ont aujourd'hui avec Neymar et Mbappé, de faire signer Ronaldo, que ce soit en transfert et encore moins en salaire. Je pense que ça se passerait assez mal auprès de l'UEFA et des autres grands clubs européens. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre actuel, c'est juste impossible.
Marc, ces petits signes où il n'est pas dans le film promotionnel de la saison prochaine du Real, où il n'est pas en photo alors que tout le monde a posé avec le nouveau maillot du Real. Lui, il y a une espèce de mannequin avec son numéro, évidemment, le 7, mais il n'est pas présent. Est-ce que c'est des petits signes ou est-ce qu'on s'attache trop à des petits signes, nous, journalistes?
Je pense des piscines parce que le Real Madrid c'est Adidas, il me semble.
Oui.
Et lui son sponsor,
lui, avec Nike.
C'est Nike. Donc si vous voulez, pour le voir en figure de proue, ça me paraît compliqué. Il l'a déjà fait, mais ça paraît plus difficile. Non,
mais c'est la photo de l'effectif.
Ouais, ouais.
Donc normalement, Cristiano Ronaldo, même s'il est chez Nike, il fait la photo avec l'effectif du Real Madrid.
Sauf que son contrat avec Nike avait été revu. J'ai vu quelques termes qui ont.
Oui, mais il fait partie du Real Madrid.
Mais justement, c'est promotionnel début d'année et il y a un filtre qui a été un peu plus corsé avec l'arrivée. L'évaluation qu'il a eue, mais je pense que voilà, il y a des signes qui sont pas forcément évocateurs, mais il y en a qui sont pas aussi trompeurs, et voilà, il y en a eu quelques-uns pour Neymar.
Bon alors pour vous, il vient ou il vient pas?
Moi, j'aimerais qu'il change d'air. Moi, je suis de ceux qui pensent. Moi, je suis fan du Real, je suis fan de Ronaldo et tout ça depuis des années. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a des moments, il faut s'asseoir et dire que c'est le bon moment pour partir et partir en héros. Le Real, beaucoup de grandes stars sont partis sans être partis en héros. Casillas est parti, il n'était pas forcément voilà. Il y a que Zidane peut-être qui est parti avec de grandes faveurs. Ce serait peut-être le temps, Ronaldo, de partir,
le bon
et de
moment.
Prendre voilà, de prendre un nouveau cap et peut-être.
Il n'est
voilà.
pas fini. Hein.
Non, il n'est pas fini du tout.
C'est très compliqué.
Comme j'ai dit, aujourd'hui, à Paris, il serait un dieu. Neymar est un prince, lui
oui,
serait un dieu.
Il sait qu'il peut pas être dans les derniers carrés. Donc c'est ça qui lui
bah,
veut,
si, si,
lui
si,
veut
si,
jouer, il veut jouer de mars, jusqu'au mois de mai, il veut jouer tout le temps. Et les plus gros matchs. Si tu lui dis qu'en Ligue 1 en décembre la saison elle est finie parce que tu as déjà 20 points d'avance, on verra.
Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas un grand fan de Paris, mais je suis pas d'accord. On l'a loué avec son esprit de la gagne, il emmènerait quelque chose en Paris. Je milite pas pour son transfert nécessairement, mais j'aimerais qu'il change et que ça change un peu l'univers,
voilà. Neymar avait dit il y a quelque temps qu'il aimerait bien jouer avec Cristiano. On disait ça pourrait être du côté de Madrid, mais pourquoi?
Non, mais il y a quelque chose aussi, on m'a pas dit, chacun a son obsession. Je pense que les Qataris, la première obsession qu'ils avaient, ce n'était pas Neymar, c'était Ronaldo. Et l'obsession de Real, c'est Neymar. Peut-être, on imagine un peu trop l'idée de l'échange. Peut-être aussi qu'il y a un deal qui peut se faire.
On parle toujours du Paris Saint-Germain, mais Ronaldo, il a aussi une autre possibilité éventuelle. C'est
Marseille.
J'aimerais bien pour
Bordeaux,
Marseille.
Bordeaux et
Manchester United. Parce que
oui,
c'est,
bah la maman d'ailleurs dit, hein, voilà. À la fin, j'aime bien
c'est
Manchester.
C'est là qu'il s'est vraiment épanoui. C'est là qu'il est devenu un joueur de classe mondiale.
Mais c'était avec Ferguson, c'était pas avec Mourinho. Mourinho, il l'a pratiqué au Real.
Ça, c'est sûr que les rapports sont pas au beau fixe. Après, quand il y a des intérêts sportifs et financiers à cette mesure-là, je pense qu'ils peuvent trouver un accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Manchester peut avoir besoin d'une figure de proue qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
Complètement.
Et quand on parle des moyens financiers, ceux de Manchester United sont colossaux.
Mais ils ont Pogba.
Oui, mais je ne suis pas persuadé que ça leur suffise.
On parle aussi de Buffon. Le Corriere della Sera nous dit que ça va se confirmer dans les heures, peut-être, qui viennent, que Buffon viendrait à Paris. Vous y croyez?
Oui.
Oui, c'est bien. Oui. Je suis ravi, moi.
Là, pour le coup, on parlait de fair play financier. C'est un joueur qui est en fin de contrat, donc qui arrive libre. Il n'y a pas de transfert. Évidemment, il faut quand même lui faire un salaire. Et même s'il fait une dernière saison qui est plutôt moyenne, et pas oublier qu'il y a un an, on parlait de lui quand même pour le Ballon d'Or, donc avec Ronaldo et Messi. Donc ça situe son niveau. Ça pourrait être un bon coup et sportif et encore plus marketing pour le PSG.
Alors les Italiens parlent aussi de Higuain, hein, en disant bon, si le PSG n'arrivait pas à avoir Cristiano Ronaldo, pourquoi pas Higuain? Oui, effectivement, pourquoi pas.
Si Cavani s'en va, il est pas.
C'est tant que
Higuain
Cavani
n'est pas meilleur que Cavani. Tant que,
voilà, exactement. Et en perdant Cavani, il faut trouver l'équivalent. Et l'équivalent,
d'accumulation,
ça se trouve pas. Je pense pas que ça existe l'équivalent de Cavani. Je ne sais pas si ça se trouve pour le PSG, mais vraiment, je suis très sérieux. Je ne sais pas qui peut.
Vous n'êtes pas le seul à le penser. Exactement.
Et donc il faut qu'ils réfléchissent vraiment. Si voilà, mais ça va peut-être aussi dépendre de Neymar avec ses attitudes.
Je crois que c'est Neymar qui réfléchit pour eux.
Exactement.
Je crois
qu'on est d'accord, Étienne.
Il y a une Coupe du Monde et qu'on en saura peut-être un petit peu plus à partir du 17 juillet.
Je suis Cavani, j'ai un club, je l'achète. Hein. J'ai beaucoup d'argent, je l'achète.
Pour terminer, eh bien, nous allons évoquer le Pérou, le pays des Andes. Avec ce Pérou donc qui se prépare lui aussi à participer à la Coupe du Monde, 34 ans d'absence, vous imaginez ce que ça peut susciter comme enthousiasme du côté de Lima. Hier soir, les joueurs ont affronté l'Écosse, hein, ça vous dit quelque chose Marc?
Oui.
Ils ont affronté l'Écosse dans un Estadio Nacional qui était plein de supporters, 50 000 personnes, et en plus, les Péruviens ont gagné.
Para estallar, para explotar, ahora Cristian Cueva. Cristian Cueva para permitirnos cantar esa palabra bendita llamada gol. en el centro del área para buscar el servicio. Sigue la carga del equipo peruano.
Je vous parlais des Andes, Marc, n'est-ce pas, hein, la flûte de Pan. Jolie musique que nous a trouvé Guillaume Ploquin. Alors, cette équipe du Pérou, si on vous en parle, c'est parce qu'elle va être dans le groupe de la France. Elle sera le deuxième adversaire, les Français jouant d'abord contre l'Australie le 16 juin, puis ensuite contre le Pérou pour terminer par le Danemark. Cette équipe du Pérou, elle gagne 2-0, elle est 11e au classement FIFA. Qu'est-ce que vous diriez, Marc? On dit que c'est un des adversaires, finalement, peut-être les plus coriaces dans ce groupe de l'équipe de France.
Ouais, c'est ce qu'on dit, puisque là on a fait un match amical en nous expliquant que c'est, on a joué contre cette équipe-là d'Irlande parce que ça correspond au Pérou, presque, on nous dit. Enfin, sur un match de Coupe du Monde, c'est totalement différent.
T'es mauvaise langue. J'espère que c'est pas Didier Deschamps que t'as entendu dire ça, ce serait inquiétant.
J'ai pas entendu Didier Deschamps, j'ai entendu sur beaucoup de plateaux nous expliquer que quoi qu'il arrive, la référence ça reste le Danemark parce qu'il y a Eriksen, et c'est vrai, c'est une très bonne équipe, et qu'on nous dit que le Pérou, quoi qu'il arrive, et l'Australie, ça va passer comme ça, comme dans du beurre. Donc attention, les matchs, il faut les jouer, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir un premier match catastrophique, donc ouais, ça sera très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit, en plus, ils ont perdu leur attaquant, donc ils n'ont plus personne, et à l'arrivée, ça fait quoi, 12-13 matchs qu'ils sont invaincus, c'est ça?
11 matchs invaincus, beaucoup de 11
ils sont sur une série maintenant. La France est favorite, certes, mais attention de ne pas se prendre pour autre chose.
En 2010, la France était déjà favorite face à l'Uruguay. La différence avec cette équipe du Pérou et l'Uruguay de 2010 notamment, c'est qu'ils ont perdu Guerrero, donc ils n'ont pas leur figure de proue et leur star qui peut les emmener vers les sommets. Mais ils ont, à l'instar du clip qu'ils ont fait, je ne sais pas si vous avez regardé ce clip extraordinaire qu'ils ont fait, qu'ils ont adressé aux adversaires, c'était tellement émouvant, il faut le voir, où ils s'adressent directement à la France en disant, nous on a connu la souffrance, nous on a connu la pauvreté, on a connu les injustices, nous arriba Pérou. Ils ont cet esprit patriotique qui fait qu'ils arrivent à se transcender pendant les matchs, et même j'ai vu quelques matchs de Copa América, je suis resté d'ailleurs tard pour regarder ce match-là. Ils ont cet esprit de sacrifice. Bien sûr, peut-être il va leur manquer du talent face à la France, mais cet esprit de sacrifice peut leur permettre de faire des exploits contre les grandes nations. Et moi, je vois le Pérou compliquer la tâche à la France.
Et c'est ça qui les rend dangereux, justement, Étienne, parce que les adversaires latino-américains, même ceux qui passent par les barrages, on sait que même s'il y en a la moitié qui partent à une Coupe du Monde, en tout cas, ce sont des équipes qui ont une vraie tradition footballistique.
Oui, il n'y a pas une équipe sud-américaine qui est facile à jouer, et je pense qu'en effet, ce serait un grand danger pour l'équipe de France de penser qu'on gagne facilement contre le Pérou, et c'est vrai que c'est un danger pour l'équipe de France en général. Il faut noter que ce soit Koscielny, que ce soit Mathieu, que ce soit Hugo Lloris, ils ont été plusieurs cadres de l'équipe de France à essayer de faire passer ce message-là, que il faut pas penser qu'on est qualifié pour les huitièmes de finale forcément juste en se présentant parce qu'on a le maillot de l'équipe de France sur le dos. C'est évidemment Didier Deschamps qui leur a demandé de faire passer ce message-là, parce que parmi les jeunes joueurs, à dire sur les matchs qui pensaient être des matchs entre guillemets un peu plus faciles, et ben les tâches défensives, elles sont pas faites par les attaquants et ça peut poser des problèmes.
En tout cas, cette équipe, elle vient sans son meilleur joueur, qui était donc ce Pablo Guerrero qui joue au Flamengo du
même
Brésil.
Même si on a signé une pétition, Hugo Lloris a signé une pétition pour qu'il soit autorisé à jouer. Donc,
Mais le président de la FIFA a dit qu'il est incapable de lever la pétition.
Il est empêché. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'il est en Suisse ces jours-ci. On rappelle, il avait été soupçonné de dopage. Il a été suspendu pendant quelques mois. Il fait appel. Et alors que ça se terminait maintenant, qu'il était en train de s'entraîner avec cette équipe du Pérou, il avait fait appel auprès du tribunal arbitral du sport qui a augmenté la peine et qui donc inclut toute la période de la Coupe du Monde. Il est en Suisse, il essaye de récupérer une autorisation. Vous pensez, Étienne, que ça peut tout d'un coup aller dans l'autre sens et que Guerrero sera à la Coupe du Monde?
Pas du tout.
Le tribunal du sport.
Une source de motivation supplémentaire pour tous ses camarades s'il n'est pas avec eux.
Non, mais c'est une source, justement. Souvenez-vous du dernier match, de barrage,
oui,
je pense.
Il était là.
Il était là le match de Bahreïn. Non, mais surtout Farfan, quand il a marqué son but, regardez ce que Farfan a fait. Il a pris le maillot numéro 9 de son compère, qui est son ami depuis qu'ils ont 10 ans. Il a pleuré sur le maillot, il a montré le maillot. Ça peut être une vraie source de motivation supplémentaire. Et pourquoi ils font toutes ces démarches pour essayer peut-être de l'emmener à jouer? Parce que c'est un vrai espoir. à l'instar de Salah en Égypte notamment qui est blessé où tout le monde pleure. C'est pareil au Pérou, tout le monde pleure le fait que Guerrero ne joue pas. C'est leur meilleur buteur, c'est leur star et voilà, c'est un doyen.
Farfán qui est devenu le troisième meilleur buteur de cette équipe du Pérou avec ses 26 buts. Il nous reste encore quelques instants, alors restons dans l'Amérique du Sud. Cette nuit, il y avait un autre match important, c'était celui, alors important enfin pour une mise en jambe dans cette configuration des matchs amicaux, parce que vous avez, je vais vous dire l'affiche. Important pour Alejandro Valente, vous avez totalement raison, mais aussi pour tous les admirateurs quand même du football argentin et peut-être aussi de Lionel Messi. Ils ont joué contre Haïti. Alors Haïti, on les connaît, les grenadiers, c'est pas forcément des foudres de guerre. Ils ont perdu 4-0, mais il y a un triplé de Messi et un but d'Agüero. C'est un bon signe pour l'Argentine.
Ouais, vous l'avez dit quand même, l'adversaire, Haïti, quand même une équipe extrêmement faible, donc au niveau international, donc on ne doutait pas une seule seconde que même une Argentine en préparation au petit trot, mais qui avait Messi est capable de leur en mettre 4. Je crois que les Argentins ils vont faire que 2 matchs de préparation avant la Coupe du Monde. C'est pas beaucoup.
Moi j'ai regardé le match, j'étais là tard dans la nuit pour enchaîner les matchs, et moi j'avais un peu pitié de cette équipe d'Argentine où c'était Messi qui se démenait comme d'habitude un peu plus seul. Ils ont eu des difficultés en première mi-temps notamment. Le premier but, il est venu sur penalty. Toute la première mi-temps, il y en n'en ont mis qu'un seul. C'était archi difficile. Ils avaient une ligne d'attaque avec Messi.
Il y avait 11 défenseurs face à eux, c'est ça?
Non, il y avait 11 défenseurs, mais il n'y avait pas de fluidité dans le jeu. Vous avez l'impression que Sampaoli, il a perdu toute sa splendeur d'entraîneur qui faisait de lui un grand entraîneur à Séville. Voilà. Ouais, mais pour Sampaoli, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? On avait l'impression qu'elle se cherchait. Moi, Del Celso, il m'a fait plaisir, Del Celso, dans ce match-là. Il est plutôt extraordinaire dans le milieu de terrain. Je ne vois pas ça souvent à Paris. Mais Messi, c'est vraiment, les mecs, ils abandonnent tout à Messi, il a tout à faire, et puis finalement, ils attendent l'exploit. Ça peut pas marcher comme ça, la Coupe du Monde. Ça peut
une
pas.
Équipe, pourtant, qui compte, hein, rappelons-le. Pourtant, aussi. Ils ont des joueurs. Di Maria, quoi.
C'est ça, quand on regarde, donc, l'effectif et le 11 de départ de l'équipe d'Argentine, on se dit, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit, quand on regarde les matchs de l'Argentine,
on s'interroge beaucoup.
C'est poussif, il n'y a pas de circulation de balles, il n'y a pas d'énergie, je veux dire, il manque une âme. Pourtant, on doute pas une seule seconde que Messi, lui, a envie d'aller gagner cette Coupe du monde pour être définitivement peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot, mais c'est vrai qu'autour de lui ça fonctionne pas, et en tout cas c'est vrai que ce qui est mis en place collectivement, c'est pas bon.
On a du mal à comprendre ce que fait Sampaoli, qui était cet entraîneur important avec l'équipe du Chili, donc il a déjà été sélectionneur, ensuite on l'a vu avec l'équipe de Séville, et Marc, là on a l'impression qu'il tâtonne. D'ailleurs Alejandro nous l'avait expliqué une fois, il joue pratiquement jamais avec les mêmes joueurs.
Non, mais est-ce qu'il tâtonne, ou alors la plupart des joueurs se disent quoi qu'il arrive c'est Messi, et si on perd ça sera la faute à Messi?
Mais c'est dangereux.
Mais c'est vrai que c'est dangereux. C'est dommage de ne pas pouvoir se mettre tous derrière lui et de le faire évoluer dans les meilleures conditions. Maradona était le plus grand pour moi, mais il avait des joueurs, des Boruchaga, des joueurs très importants qui étaient de sacrés joueurs et qui jouaient pour lui aussi. Si là aujourd'hui la plupart du temps, tiens on te donne et puis écoute, on espère que tu vas faire la différence, parce que les joueurs ils sont là, les noms ils sont là, et si on n'arrive pas à faire cette cohésion, à faire jouer ces joueurs ensemble, c'est du gâchis. Mais c'est pas la première année, c'est pas la deuxième année, c'est répétitif avec l'Argentine, donc chaque fois, et puis tout le pays lui dit, si un jour tu vas être le plus grand comme Maradona, il faut le ballon d'or, il faut gagner la Coupe du Monde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ça vient pas tout seul, ça viendra en équipe.
C'est peut-être ça le problème, Annie, pardon de couper. Des entraîneurs qui se sont succédés avec l'Argentine depuis que Messi est là, disent tous, on doit construire le jeu autour de Messi. Et ça, c'est un problème de communication. Sampaoli, c'est pareil. Il dit à tout le monde, on doit faire le jeu autour de Messi. C'est l'équipe de Messi.
C'est pas à tort,
ça pose problème.
Messi.
Et ça se ressent. Moi, le match d'hier, il m'a fait pitié en première mi-temps. Di Maria, il peut jouer beaucoup plus facilement. Ils étaient laborieux. Higuaín, tu le reconnaissais même pas. C'est Agüero, en venant en deuxième mi-temps, qui a été plutôt bon. Il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe.
C'est construite autour de Maradona, donc sur les grandes années de Maradona, et c'était pas un problème pour l'Argentine. Je veux dire, tout le monde était à son service et tout le monde se dépouillait sur le terrain. Mais en tout cas, quand on voit les qualifications de l'Argentine, ils sont quand même passés quasiment par la
fenêtre
en qualif, alors que c'est des qualifs relativement faciles en Amérique du Sud.
Exactement.
Donc c'est inquiétant.
Et ils se sont fait peur. Et récemment, match amical vaut ce qu'il vaut. Là, ils battent Haïti 4-0. Mais on se souvient de ce 6-1 quand même encaissé contre l'Espagne. Messi n'était pas là ce jour-là, mais quand même, ça peut aussi révéler effectivement des failles ou des inquiétudes. Ou peut-être, ils seront sur la route de la France, hein, c'est ça, les Argentins, à un moment ou à un autre.
Après, il y a des équipes
Argentine ou Nigeria.
Il y a des équipes qui sont pas de bonnes équipes de qualification, qui sont des bonnes équipes de tournoi final. Ça peut être ça pour l'Argentine.
Exactement.
Aussi.
L'Argentine, le Brésil aussi, souvent l'a été, même si cette année, cette fois-ci, il s'était récupéré. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à ce numéro de Radio Foot International. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Guillaume Ploquin était donc à la réalisation aujourd'hui, et on vous dit évidemment à demain. Merci.